savions que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la suite logique des événements. Ce sont des conséquences d'une longue période de perte d'identité du monde entier, qui ne sait plus où est le bien et le mal. Conséquences d'alliances douteuses avec des pays qui sont des pays qui soutiennent le terrorisme, mais pour des questions d'argent, on fait semblant de ne rien voir. Des conséquences d'un double jeu par rapport à Israël, car les terroristes d'ici ne sont pas les mêmes que les terroristes d'ailleurs, ici ils sont plus gentils. Seconde, des conséquences du boycott d'Israël, alors que on assassine des enfants et que personne n'en parle. Et aussi des conséquences de, malheureusement, de nos frères qui, lorsqu'il y a des attentats ici, je ne les ai jamais vus avec les drapeaux israéliens sur le visage. Donc il y a une certaine confusion et tout ceci est inscrit dans ce que le Mashiach nous dit, qu'au moment messianique, au moment du dévoilement messianique, la lumière et les ténèbres vont servir en même temps dans le monde. C'est-à-dire qu'il y aura une confusion totale. Et tout ceci n'est que pour une seule chose, pour réveiller nos frères à rentrer à la maison. Toutes les fêtes que le peuple d'Israël fête dans ce monde sont liées à la terre et toutes les guerres qui sont dans ce monde, que ce soit des guerres entre pays ou des guerres modernes comme aujourd'hui de terrorisme, c'est pour réveiller en fait notre peuple à comprendre que Akadosh Baruch Hu est en train de mettre en place les dernières contractions avant l'accouchement du roi. Alors bien entendu, on n'est pas heureux de ce qui se passe parce qu'on sait et nous le vivons depuis des années, mais quand ça se passe chez nous, personne ne prend en compte. Et il faut savoir en fait prendre sa couleur, chacun va prendre sa couleur dans notre époque, chacun va affirmer ce qu'il est. Et bien, Bezrat Hashem, nous allons continuer notre étude concernant l'identité donc d'Israël par rapport aux événements de la Torah, par rapport à la Torah elle-même. Nous venons de lire ce Shabbat, le mariage entre l'Occident et l'Islam. Ken, c'est l'une des dernières phrases de la paracha. Ken, Vayelech, Esav, El, Ishmael. C'est l'Occident qui va chercher Ishmael et qui se marie avec ses filles, c'est-à-dire qu'en réalité, ils forment une seule famille. Et c'est cette famille face à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Donc, tout est chamboulé dans le monde. Le peuple d'Israël doit rester dans sa cohésion, c'est-à-dire dans le fait que nous soyons, que nous sommes les porteurs du message d'Akadosh Baruch Hu au monde, et on doit continuer à émettre ce message d'une manière claire, sans s'embrouiller, sans avoir peur, sans tomber dans une panique. Il faut tout simplement savoir que ce que nous sommes en train de mener comme guerre, c'est tout simplement une guerre qui va révéler, qui va dévoiler en fait la qualité par rapport à la quantité. Et c'est ce qu'on appelle d'une manière que vous connaissez tous, la guerre de Gog et Magog. Ve'el et toldot Yitzhak ben Abraham, donc voici les engendrements, tolada, c'est-à-dire les accouchements, Yitzhak ben Abraham, de Yitzhak, fils de Abraham. Abraham holid et Yitzhak. C'est Abraham qui engendre Yitzhak. Très bizarre comme formulation. Si nous parlons d'abord des engendrements de Yitzhak, fils de Abraham, on aurait dû dire Yaakov et Esav. Car je parle des engendrements de Yitzhak. Pourquoi on est en train de me rappeler maintenant les engendrements de son père? Aucun rapport. Donc nous sommes en train de voir que pour que Yitzhak engendre quelqu'un, on ne peut pas le dissocier de son papa Abraham. Autrement dit, dans ce monde, nous avons trois pères. Et nous avons six mères. Ken, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, et les deux servantes. Donc au niveau psychologique, nous sommes mal barrés. C'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un « Est-ce que ton papa peut venir à l'école demain ?» Il te dit « Lequel ?» J'en ai trois. Bon, alors ta maman, j'en ai six. C'est-à-dire le type, il rentre à la maison, il a neuf personnages à la maison qui sont tous à la source de sa vie. Alors imaginez-vous les complexes d'Œdipe que nous avons avec un seul père et une seule mère. Je vous dis même pas à quoi nous sommes confrontés depuis notre création avec trois pères et six mamans. C'est énorme. Ça veut dire que nous sommes porteurs d'un message qui est tellement grand qu'il ne peut pas être issu d'un seul. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit clairement « En avot el ashlosha ». On ne peut pas parler de papa si on ne parle pas d'un triangle. Donc mon papa est un triangle. Il est et Abraham, et Yitzhak, et Yaakov. C'est un papa qui apparaît en trois degrés. C'est une maman qui apparaît en six degrés, ou en quatre, avec les servantes. En plus de cela, il y a une certaine répétition. Ve'el et Toldot Yitzhak ben Abraham, si je parle des engendrements de Yitzhak, fils de Abraham, même si je n'ai pas parlé des engendrements du fils lui-même, donc Yaakov et Esav. Pourquoi tu me dis Abraham a engendré Yitzhak? Tu viens de me dire que c'est Yitzhak, le fils de Abraham. Donc il y a une répétition qui est qui demande en fait étudie-moi, qui demande une réflexion de notre part. Tevat Toldot, avant d'approfondir, on voit que le mot Toldot, apoter et parashatenu qui ouvre notre parasha, ba le galot et kdushat ha toladot be'am Israël. Ça vient nous montrer, nous parler des toladot, c'est-à-dire de l'avenir, des enfants, de l'accouchement, des engendrements, des générations du futur, du peuple d'Israël. Seulement, on a déjà vu une formulation presque la même dans la paracha de Noach. Gam be parashat Noach. Potachat be'ofen domé. Même la paracha de Noach commence à peu près pareil. Et les toldot Noach. Question, pourquoi on n'a pas appelé la paracha de Noach toldot? Ou bien pourquoi on n'a pas appelé la paracha de toldot parashat Yitzhak? Vous comprenez? Donc là-bas, on a appelé la paracha Noach, velo beshem toldot, et non pas toldot. Et quelle est la raison? Tout simplement parce qu'il y a une différence énorme entre ces deux sections. Quand je parle de Noach, je parle de l'homme. C'est-à-dire d'un homme individuel. Donc je dis, elle est toldot Noach, Noach. Même quand je parle de ses engendrements, de ce qui va sortir de lui, je parle d'abord de lui. Pourquoi? Parce que je ne vois pas en lui encore les premières prémices du peuple d'Israël. Or la Torah, elle a un sens bien clair. Ce qui importe à la Torah, c'est le peuple d'Israël. C'est son sujet principal. Pourquoi? Parce que le sujet principal de toute la Torah, c'est le dévoilement de l'infini dans ce monde. Or, ce dévoilement se fait via Israël, donc il faut traiter de ce peuple qui est en train d'apparaître. Donc la Torah ne nous raconte pas des vies privées. Elle n'en a rien à faire. Donc même si au passage on parle de Noach parce qu'il y a quelque chose à tirer de là-bas, l'essence même de Toldot, du nom Toldot, ne peut pas venir de la paracha en question, elle va venir de notre paracha, parce que Yitzhak n'est pas important en tant qu'homme individuel, mais en tant que nation qui va sortir de lui. Moralité, la Torah ne parle que de la nation d'Israël, parce que son seul sujet, c'est la Géoula. Parce que Noach va sortir de lui aussi, mais quelque chose de très grand, et pas encore assez ciblé Israël. Shem, Cham et Yefet. C'est encore au niveau de l'humanité. Mais ce n'est pas encore Israël, réellement. On n'est pas les fils de Noach. Donc, El et Toldot Noach, Noach, le Umad Zot, donc en face de Noach, Yitzhak Avinu est notre mout pratit. Yitzhak Avinu n'est pas un homme individuellement parlant. Ce n'est pas ce que la Torah vient nous raconter de lui. Elle vient nous raconter en réalité notre caractère dans l'homme Yitzhak. Par l'apprentissage de qui était Yitzhak, j'apprends qui je suis. C'est-à-dire qu'en réalité, le premier Israël de l'histoire, c'est Yitzhak. Et la dmout klalit shehi ayesod. Donc c'est le fondement même. Amahamid et Am Israël qui va établir la nation tout entière. Belachen, Amishka, Ludaf, Kabatoladot. Donc ici, la Torah donne le poids sur les engendrements, c'est-à-dire sur le peuple qui va sortir de lui, et non pas sur la personne elle-même. Daf Kabatoladot, Velobaishi ou Tapratit chez l'Israël. Donc pas dans l'individu. Shlosha Avot, Ve'arba Imaot, Omdin, Beyestod ou Matenu. Donc nous avons trois pères, quatre mères, quatre qui en sont six. Nous sommes dans une situation qui est très complexe. Il faut savoir gérer trois pères et quatre mères. Mais maintenant, on va s'adresser seulement au triangle en question. Vous savez que le peuple d'Israël est appelé le peuple triangulaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que chaque fois que l'éternel, que les valeurs de l'éternel descendent dans notre monde, ces valeurs sont obligées d'emprunter trois axes. D'accord ? En plus d'être une chazaka, c'est trois en un. C'est-à-dire que même quand Akadosh Baruch Hu se dévoile, il faut que ce soit toujours autour du chiffre 3. Je vais vous donner un exemple. Nous avons trois pieds dans l'année. Shlosha Regalim. Regel, c'est un pied. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il descend dans notre monde pour se révéler, il descend sur un trépied. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle, même au niveau scientifique, mathématique, géométrique. L'équilibre le plus parfait dans ce monde est un équilibre à trois points, pas à quatre. Le quatre est un révélateur de tous les trois. Moralité, nous sommes toujours avec ce 3. Donc dès qu'il y a élément qui nous dépasse, qui descend dans notre monde, ça vient par 3. Abraham est assis et il voit 3 anges. Le Zohar nous dit qui sont ces 3 anges, pas comme dit le Pshat. Le Zohar nous dit c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, que Abraham voit. C'est-à-dire qu'Abraham voit 3 forces dont lui est l'une d'entre elles. Donc qu'est-ce qu'il voit en fait ? Il voit 3 axes qui sont obligatoires pour maintenir ce monde dans son état de vie. Al shlosha dvarim ha'olam omed. Nous le disons sans cesse dans Pirkei Avot. Alors à chaque fois vous allez voir des combinaisons différentes, mais c'est toujours un triangle.
C'est ce qui a inspiré la Trinité
des Batailles, c'est un vol. C'est pour ça que notre Kedusha, nous disons Hameshaleshim Lecha Kedusha. Qu'est-ce que ça veut dire Meshaleshim? Notre Kedusha, elle est triangulaire. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi on doit dire 3 fois? Mais tout simplement parce que nous ne pouvons pas parler de Kedusha s'il n'y a pas un triangle. Donc si nous n'abordons pas nos sujets sur 3 aspects complémentaires. Nous avons déjà parlé de ces aspects, la notion d'espace, la notion de temps et la notion d'identité, de conscience. La Torah qui descend du ciel descend le troisième jour. écrit dans la Torah, Vayehi Bayom HaShlishi. La Torah est donnée le troisième mois, Nissan Iyar Sivan. Elle est donnée par le troisième fils dans la même famille, Myriam Aaron Moshe. Elle-même, elle est triangulaire, Torah Nevi'im Ktuvim. Elle s'adresse au peuple qui est triangulaire, Kohen Levi Israël. Et je peux continuer jusqu'à demain. Heyu Nechonim Layom HaShlishi, soyez prêts pour le troisième jour. D'ailleurs, quel est le troisième jour en question? Quel jour la Torah fut donnée?
Shabbat.
Shabbat. Donc Shabbat est le jour numéro 3. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, la semaine ne commence pas par le dimanche. Et donc, ça devient Shabbat comme le week-end. Le Shabbat est le centre de la semaine. Donc, vous avez à droite dimanche, lundi, mardi. Et vous avez à sa gauche mercredi, jeudi, vendredi. Comme la menorah du Beth Amikdash. Shabbat est donc l'élément 3. Et c'est pour ça que nous avons Shalosh Seudot de Shabbat. Seuda Rishona, Seuda Shnia, Seuda Shlishi, pour avoir ces trois. D'ailleurs, le mot Shabbat, c'est trois branches. Et leur dévoilement, Shin, c'est trois branches. Et leur fille, Bat. C'est-à-dire la fille des trois lignes, des trois branches. Moralité, à chaque fois que nous recevons un degré d'un degré supérieur, quelque chose qui vient de l'infini, béni soit-il, il est obligé de nous arriver par trois. Donc, à chaque fois que vous vous adressez à l'infini, vous êtes obligé de rappeler les trois branches. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Même quand vous faites une prière toute seule en allumant une veilleuse chez vous à la maison, sans prière, ne commencez jamais à... Non. Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Après, tu peux parler en arabe, en français ou en anglais. On dit les avot et les imaot. D'accord? Ça veut dire qu'ici, nous sommes face à quelque chose de phénoménal. Il faut savoir. Et d'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas Yoël. J'ai été chercher, je vous ai dit, tiens, je vais leur trouver un chidouche. C'est marqué dans la Gemara de Shabbat, à la page 85. On appelle Israël Am Telita'ai, le peuple de Tlata, en arabe, Tlita'ai, en araméen. C'est la même chose. Ça veut dire que nous sommes le peuple du triangle. Nous sommes un triangle. Et il faut savoir comment est formé ce triangle. Et deux triangles, c'est toujours nous. Là où vous prenez le triangle, c'est toujours nous. Nous sommes triangulaires. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je dois développer un sujet dans ma vie, même quand je viens vous voir et vous faire passer une étude que je développe, je suis obligé, sans arrêt, à n'importe quel cours, de toucher ces trois points. Sinon, mon cours est boiteux. Je suis obligé de parler de la terre. Donc, dans chaque cours, vous trouverez chez moi la terre d'Israël, obligatoirement. Je ne peux pas vous donner un cours de Torah s'il n'y a pas de terre. Ça, c'était pendant 2000 ans. C'est fini maintenant. C'est interdit de parler de Torah sans parler de la terre. Je ne peux pas parler d'un cours de Torah sans parler de votre identité, de la nôtre, donc Israël. Et je ne peux pas parler de Torah si je ne parle pas d'un temps. C'est-à-dire adapter mon langage au temps dans lequel nous sommes. Donc je dois parler aujourd'hui une Torah messianique, car nous sommes dans un temps messianique. Je dois parler une Torah de la terre d'Israël, et non plus des choses qu'on essaye de rattraper du passé. C'est fini tout ça. On doit prendre le passé, mais pour l'amener à ce que nous vivons ici, aujourd'hui. Sinon, c'est une maladie, un déni. Tu vis ici et tu vis comme si tu étais encore, il y a 200 ou 300 ans, en Pologne. C'est fini tout ça. Et troisième élément, si tu ne connais pas ton identité, je ne parle pas seulement au niveau individuel, mais notre identité n'a pas été pensée un, mais nation. Israël, Aloub et Marchavatrila, quand on dit que Israël est monté dans la pensée divine, c'est pas toi et moi, individuellement parlant, c'est la nation d'Israël. C'est cette forme de vie que Rabbi Akiva appelle Chaya, la vivante. Moralité, je ne peux pas donner un cours si je ne parle pas de l'identité de mon peuple, de sa terre, et du temps qui correspond à ce que je veux dire. C'est tout. Vous voyez que notre identité, les cours que nous développons cette année, parlent, restent, de cette identité retrouvée. Donc il faut que je retrouve le triangle que j'ai toujours été. Car tant que je ne reviens pas à ma forme triangulaire, donc le Meshulash, le Kadosh, 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 Shalosh, Kedushot, eh bien, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que tu boites. Parce qu'il te manque un des trois éléments. Et dans n'importe quel domaine. Si je veux guérir un malade, je dois le guérir sur 3 degrés. Obligatoirement. Je dois le remettre sur son identité, qu'il ait conscience de qui il est. Je dois le remettre au temps où il est et dans l'espace qui lui convient. Si je ne fais pas ça, je mens. Un tribunal rabbinique, ça s'appelle Bet Din Yafé, dans le langage de la Torah. La Gemara, Bet Din Yafé. Qu'est-ce que ça veut dire Bet Din Yafé, un tribunal où on a changé les plafonds, on a mis des lustres? Il est beau? Non. Bedin Yafé, Shemoshiv et Amo Be'arso. Et à chaque fois que tu rentres pour n'importe quel din, il te dit, bon, maintenant on a réglé l'affaire, allez, prenez vos valises et montez en Israël. Ça, c'est un Bedin Yafé. Incroyable, ça. Toujours du temps de la Torah. Ça veut dire que si on ne vous pousse pas à vivre selon vos 3 niveaux, vos 3 branches, il y a un problème. La Kabbalah va parler de ces 3 branches avec ses termes à elle. Elle a un dictionnaire. On appelle ça Gimel Kabim. Les 3 droites. Yamin, Smol, Ve'emsa. Ou bien Rosh, Toch, Sof. C'est-à-dire la droite, la gauche et la centralité, ou bien le haut, le centre et le bas. Ce qui veut dire la même chose. C'est-à-dire désir de partager la droite, désir de recevoir la gauche, et équilibre, centralité. On appelle ça, dans le langage de la Torah, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc à chaque fois, nous avons 3 mains. Alors que tous les gens ont 2 mains. Vous les avez déjà vus, ces 3 mains? Bien sûr, vous les avez déjà vus. Yad HaGedola, Yad HaChazaka, Yad Rama. Vous les rappelez dans la Haggadah de Pessah. C'est-à-dire une main Gedola de l'amour, Yad HaChazaka, la main de la rigueur, et Yad HaRama, la main élevée. D'ailleurs, quand vous levez un petit objet, vous levez peut-être avec 2 mains, mais si vous voulez lever quelque chose de lourd, vous avez la main du centre, votre poitrine. Vous avez une petite main qui sort d'ici. C'est elle qui supporte le plus, mais vous ne la voyez pas. Et tous les sphirotes, tout l'édifice, l'arbre sphirotique dans la Kabbalah, il est basé sur des triangles. Keter Chokhma Bina, triangle. Chokhma Bina Da'at, triangle. Chesed Gvuratif Eret, triangle. Netzach Hod Yesod, triangle. Toujours des triangles. Et comme des miroirs, un jeu de miroirs, des triangles qui sont inversés. Le don de la Torah est un triangle. Pourquoi Dieu donne la Torah sur une montagne? Parce qu'il est à la pointe et nous sommes en bas. Mais quand on rentre en Eretz Israël, c'est la même chose mais inversée. À Shrem, on reçoit une deuxième Torah, la Torah d'Eretz Israël. Celle-ci, d'ailleurs, tout le monde l'oublie. Et celle-ci est entre 2 montagnes. Donc elle est fait un triangle dans le vide. La montagne de Eval et la montagne de Grizim. Et nous, on est en bas, cette fois-ci. Ça veut dire à Kadosh, vous êtes en bas et nous, on est en haut. Les Lébims sont en bas et le peuple est en haut. 6 tribus sur une des montagnes, 6 tribus sur l'autre montagne. Ça veut dire qu'au mont Sinaï, Dieu se trouve dans le ciel pour nous donner la Torah. Et en Eretz Israël, il est dans la terre. Au moment de l'entrée en Eretz Israël. Première entrée en Eretz Israël, la Torah est redonnée sur Har Grizim et sur Har Ebal. Donc si vous connaissez des tableaux du Moyen-Âge, Ken, vous avez toujours des gens qui regardent le ciel avec la béatitude, la bouche ouverte et des machins comme ça, c'est les peintures chrétiennes. Mais les juifs n'avaient pas le droit de peindre pendant 2000 ans. Ils n'avaient pas le droit de peindre, ils n'avaient pas le droit d'être artistes. C'est pour ça que tous les artistes sortent à partir de ces 100 dernières années. Mais alors, on nous interdisait d'être artistes, en fait. Donc depuis le temps biblique, jusqu'à maintenant, on était interdit. Mais même les juifs eux-mêmes, dans la halakha, interdisaient leurs propres élèves de toucher à l'art. Pourquoi ? Parce que toucher à la matière en dehors de la terre d'Israël, c'est voué à tomber dans la klipa. Donc on évite tout ce qui est esthétique. Moralité, tout doit être sale, tout doit être crado, tout doit être machin comme ça. Mais si tu continues quand tu viens en Israël à vivre comme tu vivais là-bas, t'as rien compris. En Eretz Israël, c'est l'inverse. Tu dois revenir à l'esthétique, tu dois soigner ton sol, tu dois faire pousser des arbres, tu dois faire en sorte que ta maison soit belle et pas chas de shalom une poubelle. En pensant que la matière est vile parce que l'esprit est important. Ça, c'était la Torah de l'exil. La Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui sait relier l'esprit à la matière. Donc, je suis obligé de formuler deux triangles. Un de la Torah que j'ai reçue au Mont Sinaï, et un deuxième évasé vers le haut, la Torah que j'ai reçue en Eretz Israël, et je viens de vous dessiner le Magen David. D'accord ? Et les anges qui nous protègent, qui sont les anges d'Israël, sont d'ailleurs Magen. Michaël, Gabriel, Nouriel. C'est les initiales du mot Magen. Vous croyez que Magen, c'est une protection, le bouclier, je ne sais pas quoi, en français, il y a toujours des trucs magnifiques, qui ne veulent rien dire, toujours. Magen, il faut savoir d'où ça sort, ce Magen. Alors, les Marocains, ils ont fait la Megena. Mais ils ne savent même pas d'où ça vient. Mais ça vient de là, en plus. C'est la protectrice. Oui, oui, oui. Oui. Et les Ashkénazes ont fait le Kugel. Pourquoi ? Parce que c'est Keigoul. Parce qu'ils veulent que Shabbat, on revienne vers le cercle qu'on a perdu dans notre vie. Alors on appelle ça le Tchoulin, c'est-à-dire quelque chose que je garde chaud, lentement. Chaud, lent. Le Tchoulin. C'est-à-dire la Tafina ou la Trina ou la je sais pas quoi, chacun il a son nom. Mais c'est pareil, c'est toujours le même truc. C'est-à-dire de quoi s'est formé tout ça ? De ronds, donc boulettes, et de lignes droites. C'est-à-dire, même les aliments que nous intégrons sont des droites et des cercles. Faites attention et vous verrez. Je reviens, donc nous sommes des triangles. Ne marchez pas comme ça maintenant dans la rue. Hein. Mais nous sommes des triangles. Nous sommes des triangles. Ken Sara, c'est la formule de Klib. Sara, c'est Shin, Resh et He. Shin, c'est 300, donc 3. Resh, c'est 200, donc 2. Et He, c'est 5. 3 plus 2 égale 5, c'est un triangle. C'est-à-dire, on vient d'une maman triangulaire elle-même. C'est un triangle. Et je peux continuer, comme je vous l'ai dit, jusqu'à demain matin, on n'aura même pas commencé notre cours. Moralité, nous sommes dans un secret, le secret du triangle, ce qu'on appelle Gimel Kavim. Et si je sais gérer ce secret, je peux équilibrer ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire gérer ce secret ? Il faut d'abord que je sache que Abraham holid et Yitzhak. Alors, dans le sens premier de la Torah, ça veut dire qu'Abraham a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Mais dans le sens un petit peu plus profond, ça veut dire quoi ? Que Abraham, qui est la bonté, a engendré Yitzhak, qui est la rigueur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour que la bonté soit une véritable bonté, elle doit savoir aussi des mesures. Sinon, tu t'éparpilles. Donc, Abraham est obligé, les holides et Yitzhak, et en réalité, à eux deux, ils forment Yaakov, qui lui-même ne va pas rester Yaakov. D'ailleurs, Abraham a eu combien de noms ? 3. Au début, il s'appelait Abraham. Après, il s'est appelé Abraham. Et un petit peu plus tard, il s'appelle Abraham. Dieu l'appelle deux fois. Vous croyez qu'Akadosh Baruch Hu il a oublié? Il l'appelle deux fois parce que la première fois il était occupé au téléphone. Ça veut dire tout simplement qu'il y a trois noms. Qu'est-ce que c'est que ces trois noms? Le premier nom c'est Abraham, c'est un membre fermé. Ever, c'est un membre. Tagour. Ça veut dire au début Abraham est fermé. Donc il est obligé de lui ajouter une lettre féminine, c'est la lettre E, qui nous donne les trois dimensions, l'axe des X, l'axe des Y et le point dans l'espace. Donc c'est un volume. Donc il devient Abraham, donc il peut engendrer. Mais après il s'appelle Abraham, Abraham. Pourquoi Akadosh Baruch Hu l'appelle deux fois? Pour lui dire qu'il est arrivé en fait au sommet de sa vie. C'est-à-dire le Abraham vu en bas et le même Abraham que j'ai prévu en haut. Yaakov, il a combien de prénoms? 4. D'abord il s'appelle Yaakov. 5. D'abord il s'appelle Yaakov. Après il s'appelle Israël. Après il s'appelle Yaakov, Yaakov. Après il s'appelle Yaakov avec un Vav, alors qu'il est sans Vav. Et après il va s'appeler Yeshurun. Vous saviez cette évolution? Et Yitzhak, il a combien de prénoms?
Un seul.
Ah, voilà le secret. Yitzhak n'a pas besoin de changer. Donc il ressemble à qui? Qui ne change jamais? A Kadosh Baruch Hu, Ani Hashem, Lo Shaniti. Ça veut dire que le plus proche enfant d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yitzhak. Extraordinaire.
Il
va d'ailleurs tous les rigueurs. Akadosh Baruch Hu bara et haolam bemidat hadin. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, c'est la rigueur même, c'est la précision même. Mais comme il sait qu'on ne peut pas vivre selon cette rigueur, qu'est-ce qu'il nous a fait? Un petit cadeau, il nous a enveloppé le Inyan. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est la rigueur même, c'est la vérité absolue. La vérité absolue, c'est de la rigueur. Quand je suis face à la vérité, je ne peux plus rien faire. Donc Akadosh Baruch Hu, c'est la rigueur, mais c'est une rigueur à un tel haut niveau que c'est la bonté par excellence. Vous croyez que parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le temps de faire les choses, c'est sa véritable valeur? Sa véritable valeur, c'est la vérité absolue. D'ailleurs, Rabbi Akiva, qui s'est dit, moi j'ai pas envie de vivre dans un monde où on me fait des cadeaux comme ça. Je veux vivre selon la vérité absolue d'Akadosh Baruch Hu. Comment il a terminé sa vie? Écorché jusqu'à son cœur. Et il a dit, toute ma vie j'ai attendu d'arriver à ce degré-là. Pourquoi? Pour comprendre le Echad. Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Shema Yisrael Hashem Eloheinu Hashem Echad. Et il est mort au moment où il a dit Echad. Ça veut dire quoi? Les sages nous enseignent qu'en réalité il a fait tout ce cheminement pour comprendre que tout ce que vous voyez dans ce monde, c'est en réalité une seule et même unité. Ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Il y a un attentat là-bas, tout le monde pleure là-bas. Ils ne savent pas que l'attentat de là-bas, il commence par les mêmes terroristes qui sont ici. Personne ne fait les liens, c'est des animaux. Ils sont bouchés les gens. Il y a un attentat sur cette rue, ils mettent 300 policiers sur cette rue, parce que le terroriste, il va dire, tiens, je vais revenir demain. Brille. Il va aller dans deux rues à côté où il n'y a personne. Hamar, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tout est comme ça. Si tu ne sais pas faire les ramifications des choses dans ton corps, tu ne peux pas être médecin. Un véritable médecin sait que quand il a mal à l'œil, on va lui toucher le doigt de pied. Pourquoi? Parce qu'il connaît exactement tous les tenants et les aboutissants de chaque degré. Parce qu'il voit l'être dans son entité et pas une parcelle. Et quand on voit la vie des parcelles rassemblées et cousues, ça s'appelle Frankenstein. C'est n'importe quoi. C'est pas ça l'être humain. C'est pas un ensemble de membres qu'on a collés. C'est une entité qui dépasse bien haut tous les détails. Eh bien, c'est la même chose dans notre vie. Et tant que le monde ne comprendra pas cette unité, qui, lorsqu'elle descend dans ce monde, elle est obligée d'être triangle, eh bien, il est voué encore et encore à l'échec. Moralité, quand vous êtes deux dans un couple, ça ne peut pas marcher. car le 2 ne marche pas. On a dit que la Shrina, elle vient toujours par 3. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans le couple quand vous êtes que 2? Rajoutez celui que vous ne voyez pas. À Kadosh Baruch Hu dans votre maison. Et s'il n'y a pas la Shrina entre vous, c'est rien du tout. Il y a un problème. Mais c'est la même chose. Pourquoi quand vous vous mariez, il y a le Rav entre les deux? Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là ici? Je veux me marier, je suis tranquille avec elle. Qu'est-ce qu'il vient, ce rabbin là? Je ne le connais même pas. Bien, c'est le représentant du troisième élément. C'est une rencontre du troisième type. C'est comme ça dans la vie. Et si je veux étudier la Torah et que j'étudie seul, je ne peux pas étudier. Donc je suis obligé d'étudier avec une chavruta, parce que entre nous, Akadosh Baruch Hu va descendre son kiddush. Ou en chavura, comme on fait ici. C'est encore beaucoup plus fort. Et donc il faut comprendre ces secrets. Je suis en train de vous dessiner en géométrie, la géométrie qui structure l'essence et l'identité d'Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire, le peuple d'Israël a une géométrie. C'est un triangle. Et il faut l'étudier. Il faut le connaître. Okay? Tout est un triangle. Tout est en forme de triangle. Tout est dans l'idéologie du triangle. Et si tu sais le secret de ce triangle, en fait, tu connais la formule d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a une formule, et cette formule-là, c'est avec elle que tout est en train de vivre. Si j'utilise, moi, le petit bonhomme que je suis, la formule de l'infini, je gagne partout. Alors pourquoi les hommes n'utilisent pas cette formule? Parce qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Toujours. Parce que le cerveau humain est tellement développé qu'il se dit, non, moi je vais inventer quelque chose. Qui m'a dit là-bas, c'est archaïque. Parashat Toldot, fais-moi plaisir, arrête. On ne comprend pas ça. Et le monde, petit à petit, va revenir à ça. Et est obligé de revenir à ça. Donc, dans ce triangle, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Ameshulash, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais comment chez Yitzhak et Nobavour? La place d'Yitzhak n'est pas claire. Pourquoi? Ou bien, met la Torah, et n'a marbel et d'aberodotab, que fiche yosa, beyachas le Abraham ou le Yaakov. D'ailleurs, la Torah n'en parle pas beaucoup. Yaakov, des pages. Abraham, des pages. Yitzhak, wello. Pourquoi? Ou becholzot, im nevoat ha Torah, mais, moi je pars avec ma réflexion humaine qui étudie la Torah, que si la Torah a choisi de me parler de lui en lui donnant une paracha qui parle de ses engendrements, c'est qu'il y a quelque chose de caché là-dedans. Donc je suis obligé, dans le peu de textes qui parlent d'Yitzhak, de découvrir le maximum d'énergie qu'il génère. Vous savez ce que c'est high technology? Qu'est-ce que c'est la haute technologie? C'est très peu de matière et beaucoup d'énergie. Eh bien, c'est exactement ça. Yitzhak, c'est très peu de matière et beaucoup d'énergie. Comme la terre d'Israël. Très peu de matière, beaucoup d'énergie. Comme le peuple d'Israël, très peu de matière, beaucoup d'énergie. Je dis toujours que Israël a une grande histoire, une toute petite géographie. Alors que les autres ont des grandes géographies, mais une histoire qui n'existe même pas. Ouvechols. Im nevoat ha Torah. Donc si la prophétie qui est la Torah. La Torah est une prophétie. Ra'ata l'enachon la'asok be'Yitzhak. Elle voit une importance de nous parler de Yitzhak. Kanirei sheyesh la megama. Je dois conclure qu'elle a un but. Merkazit, et le but est central. Bema'alach ha'shalem shel itavut ha'uma. On est en train de parler ici de l'élaboration de la nation tout entière. Yitzhak avinu hosod ha'shlemut. Et là, je conclue une conclusion que nous devons développer. Yitzhak, c'est le secret de la perfection. Et maintenant, je veux comprendre pourquoi, puisque moi, le peuple d'Israël, je sors d'Yitzhak. Vous ne m'avez pas posé la question, pourquoi je dis ça? C'est le premier homme sur terre qui a été circoncis à l'âge de 8 jours. C'est le premier Israël. Qu'est-ce que c'est que la circoncision, vous savez? Pourquoi le bébé est circoncis à 8 jours? Pourquoi Abraham, il a été circoncis à 100 ans? C'est médical. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans la naissance d'un enfant, il y a des mélanges. C'est-à-dire, il n'est pas complètement bien. Il y a des éléments qui sont dans le mal. Donc, il doit passer dans sa vie, durant sa vie, ce qu'on appelle un birou, un tri. Comment ça se fait, ce tri? Bien, tous les éléments du mal doivent se concentrer, converger vers un lieu bien précis où tout le monde se donne rendez-vous le 8e jour. Et tous les mauvais éléments du corps se disent « Ah, dans 8 jours, hein ?» Tu sais où est le rendez-vous, hein? Vous avez tous. Ce qu'on appelle la clipa. La clipa, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de voir la lumière. Donc il y a beaucoup de clipotes comme ça. Une est dans l'oreille, une est dans l'œil, une dans les cheveux, une dans la tête, une dans les pieds, une dans les machins. La bracha qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est que toutes ces forces négatives, elles se convergent, elles vont vers le prépuce. Et le 8e jour, tout le monde est au rendez-vous. Le Moël, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes tous là? Il dit, ouais! Eh bien, shalom!
Pourquoi le 8e jour?
Le 8e jour est un élément que ces forces ne peuvent plus contenir. Leur nature, c'est le 7. Donc, elles font la fête. Le 8e jour, c'est nous qui faisons la fête. Maintenant, écoutez bien. Abraham a dit nous. Il a fait sa brite à 100 ans. Qu'est-ce que nous sommes obligés de conclure? Que pour que toutes les clipotes qu'il avait en lui convergent et arrivent à ce lieu, à cet endroit dans son corps, il fallait 100 ans de travail. Ce qu'un bébé fait en 8 jours. C'est ça la Kabbalah. C'est ça qu'a reçu le Ari Akadosh. C'est ça qu'a reçu Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est du Zohar. Les filles, c'est le double. C'est-à-dire qu'au lieu... Non, je rigole pas. Au lieu que l'impureté soit 7 jours, elle est de 14 jours. Et la maman est encore 66 jours impure. Ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à parfaire encore plus longtemps chez la fille. Elle est en retard, il faut qu'elle se maquille. Okay. Nahon. Abraham a fait le travail à l'autre place. C'est-à-dire, grâce à Abraham, ce que lui a fait à 100 ans, il a dit, je ne vais pas le faire passer à mes enfants. Eux, à 8 jours, ça va être parfait. Donc, il a réduit le travail de 100 ans en 8 jours. Extraordinaire. Maintenant.
Voilà, Ishmaël, il a fait en 13 jours.
Non, 13 ans. C'est parce que Ishmaël, quand il est né d'un papa qui avait quel âge? Quel âge avait Abraham quand Ishmaël est né? 86 ans. Ok? Quelle est la valeur numérique du mot 86? Hateva, la nature. Donc Ishmaël est un homme de la nature, c'est-à-dire un sauvage. C'est marqué comme ça. Hein? Yitzhak est né quand son papa a 100 ans, c'est-à-dire l'entité. Il est entier. Il est dans la perfection. Il y a ici un décalage énorme. C'est pas par hasard que la Torah traite Ishmaël de Péré Adam. Et je vous l'ai déjà dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire, son prénom c'est Péré. Et de temps en temps, il se déguise comme Adam, avec une cravate.
Et une bombe.
Et une bombe bien cachée dans le ventre. Alors on m'a dit hier, il ne faut pas exagérer. Faut pas dire que tous les Arabes sont terroristes. Je dis non, mais tous les terroristes sont Arabes. C'est bizarre quand même. Ken, pas d'amalgame. La mila de Ishmaël est une mila sans pria. C'est-à-dire, on ne découvre pas après le prépuce.
Sans pria.
Sans pria. Ça veut dire qu'en réalité, c'est encore caché. Bria, c'est en fait dans la Brit Mila, il y a trois actions. Première action, c'est de couper le mal, de l'enlever. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec ce mal? Il faut l'enterrer. Pourquoi? Et on doit dire une phrase. Venachash afar lachmo. C'est-à-dire, c'est le prépuce, c'est le serpent. C'est ce qui reste comme souvenir du serpent. Et on l'enterre dans la terre parce que le serpent, tout ce qu'il goûte, ça a le goût de la terre, de la poussière. Donc on l'enterre dans le sable pour que ce bébé soit dans la kdusha toute sa vie. Deuxième action du Moël. Bria. C'est-à-dire, il doit retourner la peau qui reste pour découvrir ce qu'on appelle le Yud. Car le bébé avant de naître, c'est un démon. C'est un Shin qui n'est pas encore terminé. Shed. Et quand on lui montre le Yud, il devient Shaddai. Pendant 9 mois, il n'est pas encore considéré comme rien. Il est encore en potentiel 2. Donc tout ce qui n'est pas terminé dans ce monde, ça s'appelle un shed. Phrase de Shalom.
Et c'est très grave parce que quelqu'un qui est circoncis, qui n'est pas circoncis.
Alors il doit être circoncis.
Un bien philosophe, un juif qui est actuellement.
Et alors?
Alors ça veut dire qu'il est shed?
Qu'est-ce? Il y a un problème qui n'est pas dévoilé chez lui. Qu'est-ce? Et d'ailleurs, on fait la Brit Mila à des juifs même après la mort. Quel un bébé qui est né Chas Veshalom et qui n'a pas suivi la Brit Mila, on lui sait. Pourquoi? Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Shed. Vous, encore une fois, dans votre traduction française, Shed veut dire un démon. Parce que vous connaissez ce genre de truc, avec des films et des machins. Shed ne veut pas dire ça, Shed veut dire quelque chose qui n'est pas terminé. Tout simplement. D'ailleurs, le sein de la femme s'appelle aussi Shad, hein, ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, vous parlez en français, moi je ne parle pas en français, parce que là on va finir chez l'autre, là-bas, Angers des Monts, je ne sais pas qui, Nina Ricci. Est-ce que vous parlez de ce que vous voulez? D'ailleurs, je dis dans un mariage au mec, à partir de maintenant, fais attention avec ta femme, hein. Tu ne dois plus lui acheter égoïste. Comme parfum. Ça, tu dois voir le parfum qu'elle a, le Sam de Sarah, Sam Sarah. Ok? Vous voulez que je continue? Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici quelque chose d'énorme. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est pas terminé. Il faut faire atouffer d'ama, c'est-à-dire une métissa. Il faut sucer, aspirer, quoi? Ce qui reste, parce que les forces du mal, quand elles voient qu'on vient les attraper, elles se disent « Oh les mecs, on est en danger, rentrez un petit peu !» Donc le Moël, il tire tout ce qui est resté là-bas comme réchim ou comme trace. Mais au moment où il tire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il tire du cerveau du bébé, parce que ça fait aspiration, des éléments qui commencent à circuler tout au long de sa vie. Comme un aquarium. Quand vous voulez changer l'eau d'un endroit à l'autre, vous aspirez et vous jetez. D'accord? Sans boire l'eau. Mais le Moël fait la même chose. Mais quand j'aspire, c'est-à-dire que tout est en train d'aspirer, car le cerveau du bébé est doté d'un degré qui doit commencer à faire circuler toutes ces lumières. Donc selon l'aspiration en question, il y aura une circulation durant la vie du bébé. Tout ceci juste pour vous dire que Abraham a fait ça à 100 ans. Et c'est seulement quand il est arrivé à cette propreté que Yitzhak va naître. Donc Yitzhak, il est complètement limpide. C'est la simcha, c'est la joie, c'est le rire. Yitzhak. Bapasuk harishon, tira. Nahon. Ki be Yitzhak velo kol Yitzhak. C'est-à-dire même Yitzhak, et là la question est vraie, comment se fait-il que de Yitzhak n'est pas sorti directement le peuple d'Israël? Pourquoi il faut encore un prix? Il y a encore Esav. Et c'est pire encore que le premier, parce que là, ils sont tous les deux dans le ventre d'une seule mère de Rivka, dans la Kedusha. Et ils sont jumeaux. Ça veut dire que quand tu vois un occidental et un juif, tu ne peux pas faire la différence au niveau superficiel extérieur si tu n'as pas les yeux pour voir. Ce sont des jumeaux. Et le papa les confond jusqu'à 13 ans. Et pire encore, Esav embrouille son papa en lui faisant des questions d'un Talmid Chacham. Okay, comment il fait? Il lui dit, papa, comment on fait le maaser sur le sel? J'ai jamais entendu une question pareille. D'où vient le vent? Bien. Le bébé il est parti dormir et lui il est resté toute la nuit comme ça, mystère. Il n'y a pas de maaser sur le sel. Mais quand tu as un enfant qui te pose ce genre de questions, tu dis, mon fils, c'est un gaon. T'as mis tracha, mais il l'était. C'est-à-dire, les deux enfants, ils avaient un shtraïm et la bar mitzvah. Vous voyez Esav comme un voyou. C'est pas aussi simple que ça. On continue. Vous apercevez qu'à chaque fois, je vous donne de la matière, mais que j'en fais même pas le quart du tiers de la moitié. Bah, pasuk harishon v'sefer shemot. Mais c'est tout simplement pour vous inviter à étudier après en chavruta. Vous pouvez l'étudier après, vous pouvez parler entre vous et poser des questions, et si vous ne comprenez pas quelque chose, marquez les questions pour la fois prochaine. C'est dommage de gaspiller tout ça. Qu'est-ce tout ce papier? Je ne parle même pas de ce qui a marqué dessus, règle le papier. Ve'ele shemot onarbanta. Ve'ele shemot vne Israël. Abaim Israël. Dans le premier verset du livre de Shemot, voici les enfants d'Israël, les noms des enfants d'Israël, Habaim Mitzrayim, qui viennent en Égypte, vers l'Égypte, et Yaakov, Ish Ubeito Baou, avec Yaakov. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Yaakov, il est considéré déjà comme enfant d'Israël. Donc tous ceux qui sont descendus avec Yaakov en Égypte sont tous Israël. Donc qui est le papa de tout cela? Non, Yitzhak. Et Yaakov, c'est déjà Israël. Donc, avec Yaakov. Donc, Yaakov, Avinu, Nichlal, Ben Ben Israël. Donc, Yaakov, il est déjà englobé dans le peuple d'Israël. Umikan, et donc, de cela, je tire la conclusion chez Aviv Yitzhak, que son papa Yitzhak, Hu Ha Israël Arishon, Ba Historia, Shel Ha'uma. Donc, le premier Israël, c'est Yitzhak. Encore une fois, Abraham n'est pas Israël, il est Av Hamon Goïm. Il s'appelle le papa des nations. D'ailleurs, juste à 3 km d'ici, tu vas l'entendre, Ibrahim. Non. Lo gota madriga. C'est un autre degré. Et on va parler.
Pour Ishmael, c'est Driga.
Driga. Il s'appelle Ishmael. Et alors? Et alors?
Et dans la sémantique, je veux dire, c'est pas petit,
il doit être petit. Il s'arrête. Ouais. Et il y a un autre, il s'appelle Gargamel. Et alors? Et son chat, il s'appelle Azraël. Alors, c'est un juif? Ishmaël est appelé Ishmaël parce qu'à la fin des temps, nous disent les Chachamim, il va faire tellement de douleur à Israël qu'Israël va pleurer et Dieu va entendre Ishmaël. Dieu va entendre nos cris à cause de ce qu'ils vont nous faire. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Okay? Sefer HaZohar HaKadosh, dans le Zohar, Mechane et Yitzhak Meshubach Sheva Avot. Comment est-ce qu'on définit Yitzhak comme étant le Meshubach? Mazé Meshubach? Hein? Shevach. Comment est-ce Shevach? Nachon, le Shaber, c'est-à-dire élogieux. C'est-à-dire, alors que Yaakov, il t'appelle Bechir Sheva Avot. Qu'est-ce que c'est Bechir? Choisi. Et là, c'est choyé. Élu. Il y a quelque chose de plus chez Yitzhak. Pourquoi? Regardez ce que nous dit le Zohar. Pourquoi il appelle Meshubak? Parce qu'il a réussi à être sadique alors que son père l'était déjà. Regardez le Zohar jusqu'où il va. C'est-à-dire il rentre dans la psychologie de l'homme. Pourquoi? Parce que généralement un fils, qu'est-ce qu'il fait par rapport à son père? Exactement l'opposé. Naturellement, on a envie de nous sauver, de nous éloigner de nos parents. Pourquoi? Pour construire notre identité. J'en ai marre d'être le fils de... Donc il se rebelle. Alors justement, là ça devient intéressant. Qui était le père de Abraham? Terach. Abraham s'est sauvé de Terach ou pas? Donc là ça marche bien. Le fils fait exactement l'inverse de son papa. Normalement, Yitzhak, s'il faisait exactement comme son père, il aurait dû lui aussi être l'inverse de Abraham. Parce que l'enfant ne peut pas continuer la trace de son père, sauf si c'est un enfant qui est... Mais oui, c'est pas d'accord, mais c'est la réalité. Ça change rien. Voilà. Voilà. J'ai pas dit mal, c'est toi qui as traduit le mot en mal. Tu vois comment ça marche? J'ai pas dit mal, tu as introduit une notion qui n'était pas là, c'est-à-dire ton cerveau a traduit quelque chose que je viens de dire. J'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, je vais dire ce que tu viens de dire. Miprina psychologit, uvdat alichato shel Yitzhak beikvot aviv hatzadik. Le fait que Yitzhak marche comme son père dans la tzadikout. Ça veut dire que cet enfant, il est vraiment sadique. Mais pas par choix, par naissance presque. Le fils est teva haben, parce que la nature de l'enfant, l'itnaged le derech aviv, d'aller contraire à la, au chemin de son père, kedel ivnot et ishiuto asmit, pour s'auto-construire. Amaava kaze kayam ben adorot, velachel. Et donc ça, c'est le conflit des générations. Kedeliot tzadik ben tzadik, donc pour être un tzadik fils de tzadik, zenitayon kasheyoter maasher liot tzadik ben racha. C'est beaucoup plus dur que d'être un tzadik fils de racha. Donc Yitzhak est un tzadik fils de tzadik. Et là je vais dire ce que tu viens de dire. Yesh le avinot, shavur Yitzhak shemidato gvura, pour Yitzhak dont la valeur et la rigueur. Yesh nastira, il y a une contradiction. Et vous l'avez vu, toi et elle. Mahoutit kedeliot mamshir darko shel Avraham shaya isha chesed. Alors que le papa il est dans la bonté, dans l'amour, dans le partage, le fils il est dans la rigueur. Et pourtant il s'appelle Sadik. C'est-à-dire il a suivi le chemin de son père pour être un Sadik en empruntant un chemin qui lui est propre. Et ça c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire Yitzhak comme effort? Il doit se battre contre la nature normale d'être rebelle par rapport à son père, comme son père l'a été par rapport à son propre père. Abraham lo nishar ne'eman le masor et avotav. Donc, Abraham n'est pas resté fidèle à ses parents. Et en plus de ça, il a été en guerre contre la tradition de son père, Terah, qui vendait des idoles. Mais, pas complètement. Parce que qu'est-ce que ça veut dire vendre des idoles? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un magasin d'idoles? Vous croyez que les sages viennent nous raconter des histoires à dormir debout? Ça veut dire que ce père-là avait, en fait, qu'est-ce qu'il vendait là-bas, en fait? Des idéologies. Il avait un magasin, il avait marqué, ici on vend des idéologies. Qu'est-ce que vous voulez? Du marxisme, c'est ici. Du communisme, c'est ici. Jésus, il est ici aussi. Vous voulez quoi? C'est nous qui vendons les dieux au monde entier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un cherche un dieu, où est-ce qu'il va? Dans le magasin des juifs. C'est nous qui fournissons, nous sommes grossistes en Dieu. Je rigole pas. Est-ce que vous connaissez un idéal dans le monde qui n'est pas venu des Juifs? Que ce soit bien ou mal, on est toujours à la source de tout. Que ce soit Karl Marx, que ce soit n'importe qui, nous on vend les idéologies, ceux qui font les... Comment on dit Mahapechot? Les révolutions dans ce monde, c'est nous. C'est-à-dire que nous avons un magasin où il y a marqué idéologie. Grossiste. Donc à chaque fois que quelqu'un, intuitivement, il a besoin d'un dieu, où il vient le chercher? Chez nous. On en a fourni un il y a 2000 ans. Il a encore répondu là-bas. C'est extraordinaire quand même. Ça veut dire que même à la fin des temps, quand on va vouloir en fait la dernière idéologie, celle que toutes les nations tout doucement sont poussés à accepter, c'est-à-dire la rédemption du monde. Vous l'entendez maintenant ? On ne peut plus vivre comme ça. Il faut enlever ce mal de la planète. Vous l'entendez ? Mais ça vient par des coups. Où est-ce qu'on va venir chercher ça ?
Chez nous.
Et on va l'appeler ce dernier, Melech HaMashiach. C'est le dernier Dieu à fond faire le magasin. C'est là ? Veisrak, donc Israk, Mamshich et Masoret Avi. Aya Amur Gamul Imrod Beshitato Shel Avraham. Il aurait dû, s'il continuait comme son père, être lui aussi rebelle par rapport à son père. Kefish Avraham Marad Beshitato Shel Aviv Terah. Comme son père a été contre son propre père.
Le père d'Abraham, on parle de Tzadik Ben Racha.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y avait une dimension de Racha.
Il y a fait.
Il devait se battre.
Voilà, voilà. Voilà.
Alors que Yitzhak, il n'avait pas ce père Racha.
Il y a fait.
Donc il n'avait pas cette époque.
Mais il avait la Trouna. La Trouna d'être un idéologiste. C'est une Trouna. Après, comment tu lui donnes la couleur dans ta vie, c'est ça, c'est son problème. Voilà la conclusion. Lachem Yitzhak mitnaged le masoret aviv Abraham. Donc, il peut être contre, mais continuer. Donc, il y a un paradoxe. Yesh kan paradoxe gadol, hamegale et amurkavut shel am Israël. Abraham avinu pal vaolam bemidat ha-chesed. Donc, Abraham utilise son moyen qui s'appelle chesed dans le monde, olam chesed ibane. Achibur ben ha-shamayim le ben ha-aretz matril ba-ofi ha-natua ba-Abraham. Ça veut dire que si tu veux faire le lien entre le ciel et la terre, c'est seulement par Abraham. Et c'est pour ça que David Améler nous dit que la seule manière de faire vivre ce monde, c'est la bonté, l'amour. Mais avant d'arriver à ce stade d'amour, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut la rigueur, parce que pour créer les mesures, un complexe dans lequel je vais générer de l'amour, il faut des limites. Donc qui précède qui en réalité ? Yitzhak précède Abraham dans le monde supérieur. Et dans le monde révélé, dans la caméra d'en bas, qui précède qui ? Abraham précède à Yitzhak. Maintenant, vous comprenez pourquoi on dit « Elle est toldot Yitzhak ben Abraham ». Abraham au lit de Yitzhak. Ça dépend dans quelle caméra tu es. Et ça, c'est un secret. À la dernière partie, il y a une histoire. On va juste sauter, je vous fais vite, parce que je prends un tout petit peu plus. Tout ce qui est en gras. D'accord ? C'est la Gemara dans le traité de Shabbat 89. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Amar Rabbi Yochanan. Maï dechtiv atiata avinu. Un jour, nous avons dit, c'est toi, car c'est toi notre papa. À qui on s'adressait ? Non, à Yitzhak. Pourquoi ? Qui Abraham lo yeda'anu ? Parce que Abraham nous a oubliés. Ve Israël lo yakirenu. Et Israël ne nous reconnaît pas. Bizarre. Ata Hashem avinu goalenu ma'olam shemecha. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, il ne reste plus que toi et à celui qui te ressemble le plus dans ce monde. Qu'est-ce que c'est que cette bara ? Voilà, maintenant on va expliquer. Le'atid labo, à la fin des temps. Yomar lo Kadosh Baruch Hu le'Abraham. Dieu va dire à Abraham. Banecha chat'uli. Tes enfants ont fauté envers moi. Amar le fanav ribono shel olam, Abraham dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, imachu al kedushat shemecha. Qu'est-ce qu'elle les effacer? Au nom de ton nom. Ouai. Amar et marle le Yaakov, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lâche Abraham, il va chez Yaakov. Le petit-fils, hein, maintenant. Deha voulait tar gidul banim. Lui, au moins, il a su ce que c'est que de faire grandir des enfants. Il avait beaucoup de souffrance avec ses enfants. Peut-être qu'il va être un petit peu miséricordieux. Et Pshar de Baer Rachme Alayhu, peut-être qu'il aura des Rachamim. Alayhu. Amarle, il lui a dit Banecha Chatou. Il lui dit la même chose. Akadosh Baruch Hu parle à Yaakov, il lui dit tes enfants ont fauté. Amarle Panavri, Bono Sholam, il a dit maître du monde, Imachu al Kibushat Shemecha. Ça va les effacer. Au nom de ton nom. Amar Lobesa Betama, Velo Bedarda Ke'aïta. Kadosh Baruch Hu dit, je n'ai pas trouvé de solution ni chez les vieux, ni chez les jeunes. Amarlo le Yitzhak, qu'est-ce qu'il lui reste ? Yitzhak. Nous sommes dans le triangle. Il va chez Yitzhak. Banecha chat'uli. Il lui dit, tes enfants ont fauté. Amar le fanav ribono shel olam banai, velo banecha. Quoi, Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit mes enfants ont fauté, c'est les miens ou les tiens?
Ouais,
ton fils, quand il a fait une bêtise, ton fils, regarde ce qu'il fait ton fils. Il dit, mais c'est pas que le mien. On l'a fait ensemble, donc je sache. Et maintenant, il sera qui donne un cours à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ça devient un chassid. Il dit à Kadosh Baruch Hu, quand ils ont dit devant toi, Naase Venishma, Karatalaim Bni Bechori, tu les as appelés mon fils, mon bien-aimé. Arshav Banaï, Velo Banecha, maintenant tu me dis que c'est mes enfants et pas les tiens. Veod. Et si tu veux vraiment rentrer dans les détails à Kadosh Baruch Hu, viens, on va faire des comptes. Kamachatu, combien ils ont fauté? Ça y est, maintenant ça commence à être le Shmatef, hein? Kamashnotav Sheladab, Shiveinshana, combien un homme vit? 70 ans? Ok. Dal Esrim de la Anshat Alayu. Déjà on enlève 20, parce qu'on ne peut pas accuser un enfant à partir avant l'âge de 20 ans. Donc il reste 50. Pashuleu Khamshim, donc il reste Khamishim. Dal Esrim de Khamisha, enlève 25 ans de Leilota des nuits, parce que la moitié de la vie c'est la nuit, donc il reste 25 ans. Pashula Esrim ou Khamsha, il reste 25. Dal Tarte Sare ou Palga, enlève 12 et demi de prière et de manger, ou des bêtes à kisser et des toilettes. Regardez jusqu'où il va. Regardez. Pachou, Léo, Tarté, Saré ou Palgué. Donc il lui reste 12 et demi. Imata, sauvé les Tkula, Moutaf. Si tu veux les prendre les 12 ans, il n'y a pas de problème. Imla, Palga, Alay, Palga, Alekha. On prend moitié-moitié. Extraordinaire. Il traque. Veim, Tim, Saloma, Kulam, Alay. Et si tu me dis non, prends-les sur toi, toutes ces fautes-là. Ha, karivit nafshikamar, je l'ai déjà fait. Je me suis déjà porté sur le misbar, on m'a tué. On allait me tuer, j'ai rien dit. Donc je prends tout sur moi. D'accord, mais regardez, Patrou et Amrou, les enfants d'Israël, quand ils ont entendu ça, quand ils vont entendre ça à la fin des temps, c'est-à-dire c'est maintenant, voilà, vous êtes maintenant dans le chiour, et je vous le dis, vous devez tous dire à ça, Avinu, c'est toi notre père. Amar laem Yitzhak, achate mekalsim li Yitzhak, qu'est-ce qu'il fait? Il apparaît. Il dit non, arrêtez, ne me donnez pas du kavod. Moi je suis pour rien. Avant de me faire à moi du kavod, faites le kavod. Le akadosh baouhou. Qu'est-ce qu'ils font tous? Miyad nasu enem la marom ve omrim, tout le monde lève les yeux au ciel. Ata Hashem avinu goalenu me'olam shemecha. C'est toi qui vas nous délivrer à la fin. Ça veut dire quoi? Tout simplement par rapport à Yitzhak. C'est juste une façon de parler. Je conclue. La Géoula va venir sous la forme de qui? Quelle couleur elle aura?
Yitzhak.
Qu'est-ce que c'est Yitzhak là? Gvoura. Ça veut dire tant que nous ne serons pas des Giborim, on n'aura pas la Géoula. Grâce à Dieu, depuis que nous sommes revenus sur notre terre, nous sommes devenus des Giborim. Nos enfants sont des Khayalim, sont courageux. Notre peuple est courageux. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui habillés d'un vêtement de Yitzhak. Toda Rabba. La courroie.
Toda Rabba.